Babel Mpongo Matimango pour le journal.
Trois personnes tuées par balle cette nuit au quartier Imbé de Goma. Deux de ces victimes appartiennent à une même famille. Campagne de vaccination contre la polio en Panam Bandaka. Des parents refusent de faire vacciner les enfants, estimant que ce vaccin contiendrait du poison. Ce week-end, deux autorités provinciales ont été lapidées dans la commune de Wangata pendant qu'ils faisaient la sensibilisation. Et puis, le mouvement de libération du Congo appelle à une solution politique pour le retour de Jean-Pierre Bemba. Déclaration hier de Thomas Louaka, président du groupe parlementaire de ce parti. Madame, Monsieur, bonjour. Au Nord Kivu, trois personnes ont été tuées par balle cette nuit à Goma, dans le quartier Imbi. Il s'agit de deux membres appartenant à la famille d'un médecin de l'hôpital de la communauté baptiste au centre d'Afrique, CBK en sigle, et d'un infirmier anesthésiste du même hôpital. De Goma, des précisions avec Gisèle Cage.
Ces forfaits ont été commis par des hommes armés aux environs des 19h, heure locale. Selon le bourgmestre de la commune de Goma, les bandits estimés à plusieurs tentaient cambrioler l'habitation d'un médecin de l'hôpital CBK de Goma. Faute de cela, ils s'en sont pris aux trois victimes, dont le beau-frère du médecin et l'anesthésiste qui venait d'entrer dans la parcelle à bord d'une voiture, et l'autre, le fils du médecin qui venait d'ouvrir la barrière. Selon la même source, le beau-frère du médecin et l'anesthésiste sont morts sur place. Le fils du médecin, lui, vient de succomber de ses blessures ce matin à l'hôpital général de Goma. Dans la même nuit, une fonctionnaire internationale de la MONUC a été visitée à son domicile par un homme armé en tenue civile. Ce dernier a emporté quelques effets, notamment des appareils électroniques, dont deux ordinateurs portables, un lecteur DVD ainsi qu'un appareil photo numérique. Depuis les affrontements du mois d'août dernier entre des militaires FARDC et les hommes de Nkunda, la police militaire de la brigade ECHO ne mène plus de patrouilles dans la ville de Goma. Un responsable de la brigade ECHO déclare qu'ils ont été appelés à d'autres tâches. Gisèle Cage, Goma, Radio Okapi.
Sachez aussi que les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et de la République démocratique du Congo sont réunis ce dimanche à Kampala pour discuter de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Cette réunion d'un jour, à laquelle participe également le chef de la mission de l'ONU en RDC, William Swink, doit étudier des stratégies visant à mettre fin aux menaces et forces négatives sur la sécurité et au régional. De Kampala, Jean-Paul Basila.
Pour William Lessing, la MONUC continuera à appuyer le retour des rebelles rwandais du FDLR, estimés à environ 6 000 sur le sol congolais, en se basant sur trois principes, à savoir les retours volontaires, les actions militaires et le soutien aux voies judiciaires. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC Congo a déclaré à la presse n'avoir pas abordé la question sur Laurent Kunda et ses combattants au cours de son exposé. Il indique tout de même que ce sont des éléments FARDC qui doivent aller au brassage. Ce matin à Mouyonyo, le ministre et représentant du gouvernement participant à ce sommet discutent à huis clos. Rien n'a encore filtré de leur discussion. De Mouyonyo en République Ougandaise, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, la campagne contre la poliomyélite est bloquée à Mbandaka. Une partie de la population refuse de faire vacciner les enfants. Cette opposition est observée depuis jeudi dernier, date du lancement de la campagne. Vendredi, des autorités provinciales l'ont appris à leurs dépens. Ils ont été lapidés à Ikengeleke, dans la commune de Wangata. Quelle est la situation sur le terrain et pourquoi ces parents s'opposent à cette opération? C'est ce que nous dit Jean-Michel Liboula Mopolo au de ces événements.
En Mbandaka, la campagne anti-polio lancée jeudi dernier se déroule difficilement, rapporte des vaccinateurs largués sur le terrain. Dans certains quartiers de la ville, indique-t-on, certains parents pensent que le vaccin contiendrait une certaine dose de poison qui risque de causer la mort de leurs enfants une fois vaccinés. Vendredi dernier, médecins, infirmiers, mobilisateurs et journalistes ont été lapidés à Ikengeleke, un quartier situé dans la commune de Wangata. Le ministre provincial de la Santé et son collègue de l'Intérieur, venus sensibiliser la population sur l'importance du vaccin antipolio, ont été accueillis par des pierres. Dans leur fuite, le ministre de l'Intérieur, qui a été rattrapé par la population, a été copieusement tabassé. Pour l'instant, l'infortuné est interné à la clinique médicale de Mbandaka. Plus d'une cinquantaine de personnes du quartier Ikengeleke ont été arrêtés à l'issue de l'opération de bouclage menée par la police dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Enfin, dans un message adressé à la population, le gouverneur de l'Équateur indique que la vaccination anti-polio a un caractère obligatoire dans sa province. À cette occasion, José Makila a fait savoir que tous ceux qui prendraient le risque d'entraver le déroulement de l'opération de vaccination s'exposeraient à des poursuites judiciaires prévues par la loi. Mbandaka, Jean-Michel Liboula Mopolo, Radio Okapi.
Lutte contre le virus Ebola au Kasaï occidental. Un laboratoire mobile de détection de ce virus sera installé dans les prochains jours à Mweka et dans les autres régions où seront implantés les centres d'isolement. Une équipe d'experts américains du Center for Disease Control and Prevention est arrivée hier au Kasaï occidental en vue d'une évaluation du projet sur terrain. Marie-Chantal Lumba.
Les quatre experts du CDC se sont rendus dans la zone de santé de Luebo, de Mweka et de Kananga avant de retourner à Kinshasa. Selon Dr Jean-Constantin Kanoa, médecin inspecteur provincial, il est attendu ce dimanche une autre équipe munie des tests rapides du virus d'Ebola. Dr Kanoa souligne que cet équipement pourra enfin différencier parmi les cas suspects les malades atteints effectivement du virus. Il ajoute que depuis que l'alerte a été lancée dans les zones de santé et suite à la mobilisation sociale, les cas suspects lui sont rapportés quotidiennement. C'est ainsi que la confirmation au laboratoire est nécessaire pour le triage des malades suspects qui, selon le dernier chiffre de l'inspection médicale, avoisine une centaine. Entre-temps, le personnel soignant suit une formation appropriée sur la prise en charge des malades atteints du virus d'Ebola. Initiée par le ministère national de la Santé en collaboration avec l'OMS, la formation met un accent sur l'usage des équipements de protection, le prélèvement, la conservation et le transport des échantillons. Par ailleurs, une équipe des spécialistes du ministère de la Santé s'est rendue ce samedi à Kapungu pour renforcer l'équipe soignante de Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
Et au Kasaï oriental, le ministre provincial de la Santé rassure, aucun cas de fièvre hémorragique n'est signalé à Mouine du tout pour l'instant. Il réagissait ainsi aux rumeurs faisant état de la détection de deux cas de fièvre hémorragique Ebola dans cette ville. Roland Chaudou a toutefois invité les habitants de sa province à rester vigilants et à ne pas paniquer. Santé toujours en province orientale, nous parlons de la clôture hier soir à Kisangani du séminaire de formation sur le management en soins de santé primaire. Ce séminaire était organisé à l'intention des gestionnaires de zones de santé des districts de la Tchopo et du Bas-Ouélé. Le but est de rendre les zones de santé productives et de renforcer leurs responsabilités en soins de santé primaire. C'est une rencontre initiée par la division provinciale de la santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et du bureau central de coordination au BCECO. Anselme Massoua nous en parle.
Plus de 30 personnes, à savoir médecins chefs de zone de santé, médecins directeurs, directeurs de nursing, infirmiers superviseurs et administrateurs gestionnaires, ont pris part à ce séminaire. Pendant un mois, ces prestataires de santé ont accumulé des notions sur les responsabilités dévolues aux gestionnaires des structures sanitaires. Dr Patrick Matala, facilitateur de la rencontre, parle de la mission dévolue à ces gestionnaires de zone de santé.
Ils ont à leur charge les activités de planification de tout ce qui doit se faire au niveau de la zone de santé, l'exécution, suivre et évaluer tout ce qui se fait dans la zone de santé en matière de soins. Faire le plaidoyer auprès des autorités sanitaires, que ce soit des gens qui sachent également comment agir en tant que manager pour mobiliser les ressources locales afin de faire vivre les activités de santé ou des soins de santé primaires dans les zones de santé qui leur sont respectives.
Pour les bénéficiaires de cette formation, le gouvernement congolais doit mettre à la disposition des zones de santé ne fût-ce que le minimum des ressources humaines, matérielles et financières. Ce qui leur permettrait, ajoute-t-il, de bien appliquer les notions managériales accumulés et aux autorités sanitaires de bien mesurer la rationalité de leur gestion. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Retour du sénateur Jean-Pierre Bemba au pays. Le mouvement de libération du Congo appelle à une solution aux politiques. C'est une réaction à la position du président de la République qui renvoyait cette question au Sénat et à la justice lors de son dernier point de presse à Kinshasa. Le président du groupe parlementaire du MLC a communiqué cette position hier en marge de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire au Palais du Peuple à Kinshasa. Thomas Louaka est au micro de Nazar Koko.
Nous considérons que les événements malheureux du mois de mars de cette année doivent trouver une issue politique. Et deuxièmement, nous pensons que la réconciliation nationale passe par la paix de cœur et nous pensons que le retour de Jean-Pierre Bemba, sénateur de la République, président du plus grand parti politique en termes de nombre de l'opposition institutionnelle, est une bonne chose pour deux raisons. Premièrement, ça va aider à consolider la démocratie dans notre pays. Nous pensons tous que la démocratie est la seule voie d'issue pour le développement dans notre pays. Et deuxième raison, nous pensons que contraindre Jean-Pierre Bemba à l'exil n'est pas une solution souhaitable ni pour les MLC, ni pour l'avenir de la République. Il faut que les autorités mettent en place un léger dispositif sécuritaire pour le retour de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, nous avons l'impression de n'être pas compris, mais nous souhaitons que demain, peut-être, nous serons compris. Pour les MLC, emprunter une autre voie, c'est aller directement dans une impasse.
Parlons à présent de ces chiffres alarmants au Katanga. Près de 400 chimpanzés disparaissent chaque année dans cette province. Ils finissent soit dans les circuits illicites vente animaux, soit dans les assiettes des populations autochtones. Affirmation ce samedi de l'association JAC, jeunes animaux confisqués au Katanga, au cours d'une mini-exposition au musée de Lubumbashi. Cette information est aussi confirmée par l'Institut congolais de conservation de la nature. Cette association qui tient à stopper le trafic d'espèces protégées appelle les autorités de la République démocratique du Congo à actualiser les lois portant en réglementation de la chasse. On écoute Franck Châteauroux, président de JAC, au micro de Nelly Kabena.
Pour chaque bébé attrapé, il faut en tuer 10. On arrive à des chiffres absolument terrifiants. D'environ 400 chimpanzés prélevés dans leur milieu naturel chaque année, rien que ce qui se passe à Lubumbashi. Ça leur fait peut-être gagner quelques dollars sur le coup, mais il faut qu'ils pensent d'abord, ces braconniers, je lance le message, qu'ils pensent à leurs enfants. Il faut protéger ces animaux pour les générations futures. Ils apportent beaucoup d'argent dans les pays voisins, notamment au Rwanda. Pour aller visiter les gorilles de montagne, il faut payer 500 dollars. Ça fait rentrer beaucoup d'argent dans le pays et il faudrait que ça change ici en RDC. Donc arrêtez de commettre ces massacres. Et sachez qu'aujourd'hui, avec la nouvelle politique du pays, ces actes ne vont pas rester impunis et on va commencer à emprisonner des gens ici et à mettre des amendes très sérieuses au niveau du parquet, au niveau des parquets de justice de toute la République. Donc arrêtez, cessez le feu.
La corporation des transporteurs routiers opérant sur les routes Butembo-Mambasa et Butembo-Bunia dénonce les tracasseries administratives, policières et militaires dont ses membres sont victimes sur ces deux tronçons. À l'issue de la réunion tenue ce vendredi, les transporteurs ont conclu que le commerce entre les secteurs de Butembo et le district de l'Ituri risque d'en pâtir. Le point avec Étienne Mouindo.
Une dizaine de barrières sont érigées sur la route Butembo-Mambasa et presque autant sur la voie Butembo-Bunia. À chacune des barrières, note la corporation des transporteurs routiers, il faut payer entre 5 et 250 dollars aux différents services de l'État, y compris la FEC et la SECO. Toutes ces taxes sont perçues sans quittance et manquent à gagner pour les trésors publics, déplorent les transporteurs routiers. Le trafic entre les secteurs de Butembo et les districts de l'Ituri est vital pour le développement de ces deux entités, reconnaît M. Kambale Wangahemuka, secrétaire de l'Association des transporteurs routiers. Butembo a besoin du bois, de l'or et du poisson de l'Ituri. Ce district, de son côté, sera vital à Butembo à produits manufacturés importés d'Europe ou d'Asie, poursuit-il. Pour l'épanouissement du commerce entre les deux entités, la Corporation des transporteurs routiers de Butembo demande à la commissaire des districts de l'Ituri de supprimer les barrières illégales dressées sur les deux tronçons Butembo-Mambasa et Butembo-Bunia. Etienne Mouindo, Butembo, Radio Okapi.
Et au Bandundu, les CIO cadres de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, suspendus depuis plus d'un mois, vont reprendre leurs fonctions. L'arrêté provincial les réhabilitant a été rendu public en début du week-end dernier. Ils étaient accusés, entre autres, de mauvaise gestion des frais récoltés pendant l'organisation des examens d'État 2007. Basile Bakumbani.
Il s'agit de trois inspecteurs principaux provinciaux et trois chefs de division de l'éducation de trois provinces éducationnelles de Bandundu. Ils étaient ainsi suspendus depuis le 8 août dernier. Comme grief à leur charge, on les accusait d'avoir induit les gouverneurs en erreur en fixant un taux très élevé de participation à l'examen d'État, d'avoir mal géré ses frais et surtout de n'avoir pas déclaré le solde. Cela faisait suite à une enquête diligentée par l'Assemblée provinciale dans ce secteur, d'où la mesure qui les avait suspendus de leurs fonctions pour permettre la poursuite du dossier. Pendant tout ce temps, tout ce cadre n'avait plaidé que non coupable. Pour certaines personnes, cette mesure prise à quelques jours de la rentrée scolaire risquait de perturber le bon fonctionnement du secteur de l'éducation dans la province. Mais le gouverneur campait toujours sur sa position. Pour lui donc, c'est maintenant que leur peine de suspension est arrivée à son terme. Enfin, ils viennent d'être réhabilités au moment où le secteur paraît très agité avec les revendications des syndicalistes qui ne font que durcir les tons en refusant de reprendre les cours si les conditions salariales ne sont pas revues et payées. De Bandundouville, Basile Bakoumbane, Radio Okapi.
C'est aussi ici que s'achève ce journal. Bonne suite au programme sur Radio Okapi.